Sa mère n'était pas là et ne rentrerait pas avant 10 heures du soir passé. Elle donnait des cours pour adultes au City College pour arrondir ses fins de mois. Maurice savait qu'elle honnissait ses cours, qui étaient selon elle bien en deçà de ses compétences. Et lui, ça le faisait bicher. « Prends-toi ça, maman, » pensait-il. « Prends-toi ça bien profond. » Le congélateur était bourré de plats cuisinés tout prêts. Il en prit un au hasard et le mit au four. Il lirait le temps qu'il soit prêt. Après manger, il irait peut-être en haut attraper un des Playboys de son père sous son lit, l'héritage du vieux, se disait-il parfois, pour se palucher un moment. Il avait oublié de mettre le minuteur du four, et c'est l'odeur de ragoût de bœuf brûlé qui le tira de son livre 90 minutes plus tard. Il avait lu les 100 premières pages. Désertant cette petite baraque d'après-guerre en préfabriqué de merde, perdue au fond des rues au nom d'arbres pour s'en aller traîner dans les rues de New York avec Jimmy Gold. Comme dans un rêve, Maurice alla à la cuisine, enfila les gants matelassés, retira la masse coagulée du four, la jeta à la poubelle et retourna à son coureur. « Faudra que je le relise », se dit-il. Il avait l'impression d'avoir un peu de fièvre. Et avec un surligneur. Il y avait tellement de choses à noter et à se rappeler. Tellement. L'une des révélations les plus électrisantes dans une vie de lecteur, c'est de découvrir qu'on est un lecteur. Pas seulement capable de lire, ce que Maurice savait déjà, mais amoureux de la lecture, éperdument, raide dingue. Le premier livre qui donne cette impression ne s'oublie jamais. Et chacune de ces pages semble apporter une nouvelle révélation. Une révélation qui brûle et qui enivre. Oui, c'est ça. Oui, je l'avais vu aussi. Et bien sûr, c'est exactement ce que je pense. C'est ce que je ressens. Maurice écrivit un compte-rendu de 10 pages sur le coureur. Celui-ci revint des mains de Mademoiselle Todd avec un « A+ » et un unique commentaire. « Je savais que tu apprécierais. » Il avait envie de lui dire qu'il n'avait pas apprécié. Il avait aimé, sincèrement aimé, et qu'un amour sincère ne meurt jamais. Le coureur voix de l'action était tout aussi bon que le coureur. Sauf qu'au lieu d'être un étranger à New York, Jimmy était maintenant un étranger en Europe, combattant jusqu'au cœur de l'Allemagne, regardant ses amis mourir et, pour finir, fixant avec une hébétude dépassant l'horreur ce qu'il découvrait derrière les barbelés d'un camp de concentration. Les survivants errants et squelettiques confirmaient ce que Jimmy soupçonnait déjà depuis des années, écrivait Rothstein. Tout ça était une monumentale erreur. Maurice recopia cette phrase en lettres gothiques à l'aide d'un kit de pochoir et la punaisa à la porte de sa chambre. Celle-là même qu'occuperait plus tard un garçon nommé Peter Saubers. Sa mère la vit accrochée là, sourit de son sourire en coin sarcastique et ne releva pas, du moins pas tout de suite. Leur différend au sujet de la trilogie Gold survint 2 ans plus tard, une fois qu'elle-même eut dévoré les livres. Suite à leur engueulade, Maurice s'était saoulé, suite à quoi il était entré par effraction dans une maison de Sugar Heights et l'avait vandalisée, suite à sa condamnation pour voie de fait. Il avait purgé 9 mois de détention au centre pour mineurs de Riverview. Mais avant tout ça, il y avait eu la sortie du coureur ralenti, que Maurice lut en sentant monter en lui une horreur grandissante. Jimmy se mariait avec une gentille fille. Jimmy décrochait un boulot dans la pub. Jimmy commençait à s'empâter. La femme de Jimmy tombait enceinte du premier des 3 petits Gold et il déménageait en banlieue pavillonnaire. Jimmy s'y faisait des amis. Lui et sa femme organisaient des barbecues dans leur jardin. Jimmy présidait le grill avec un tablier qui disait « Le chef a toujours raison ». Jimmy trompait sa femme, et sa femme le lui rendait bien. Jimmy prenait de l'Alka-Seltzer pour ses aigreurs d'estomac et un truc appelé du Milltown pour ses gueules de bois. Et surtout, Jimmy courait après le billet d'or. Maurice avait lu ces terribles développements avec une consternation toujours plus vive et une rage croissante. Il supposa qu'il ressentait ce que sa mère avait ressenti quand elle avait découvert que son mari, qu'elle croyait sagement à sa botte, avait vidé tout leur compte en banque, tout en continuant à se démener, s'empressant toujours d'obéir à ses ordres, sans jamais lever une seule fois la main pour baffer ce sourire en coin sarcastique sur son visage de bêcheuse surdiplômée. Maurice continua d'espérer que Jimmy se réveillerait, qu'il se rappellerait qui il était, ou qui il avait été, et qu'il renoncerait à la vie creuse et stupide qu'il menait. Au lieu de ça, le coureur ralenti s'achevait avec Jimmy Gold célébrant sa plus grande réussite publicitaire, le Dudsy Doo, pour l'amour du ciel. Et vociférant un vaniteux, « Attendez de voir l'année prochaine !» Au centre de détention pour mineurs, Maurice était contraint de voir un psy une fois par semaine. Le psy s'appelait Curtis Larsen. Les garçons le surnommaient Larsen Lobsen. Larsen Lobsen clôturait toujours leur séance par la même question. De qui est-ce la faute, Maurice, si tu es ici? La plupart des gars, même les plus abyssalement cons d'entre eux, connaissaient la réponse à cette question. Maurice aussi la connaissait. Mais il refusait de la donner. De ma mère, répondait-il à tous les coups. Lors de leur dernière séance, peu de temps avant la fin de peine de Maurice, Larsen Lobsen croisa les mains sur son bureau et regarda Maurice durant de longues et silencieuses secondes. Maurice savait que Larsen Lobsen attendait qu'il baisse les yeux, ce qu'il refusait de faire. « Dans mon boulot, » finit par dire Larsen Lobsen, « ta réponse a un nom. On appelle ça le déni de culpabilité. Penses-tu revenir ici si tu continues à pratiquer le déni de culpabilité? Il est presque certain que non. Tu auras 18 ans dans quelques mois. Alors la prochaine fois que tu décrocheras la timbale, car il y aura une prochaine fois, tu seras jugé par un tribunal pour adultes. Sauf si, bien sûr, tu décides de changer. Donc, pour la dernière fois, Maurice, de qui est-ce la faute si tu es ici? De ma mère, répondit Maurice sans hésitation. Parce que c'était pas du déni de culpabilité. C'était la vérité. La logique était imparable. Entre 15 et 17 ans, Maurice avait relu les deux premiers tomes de la trilogie Gold de manière obsessionnelle, surlignant et annotant. Il avait relu Le coureur ralenti une seule fois, et en se forçant. Chaque fois qu'il l'ouvrait, il avait une boule de plomb qui se formait au creux du bide, parce qu'il savait ce qui allait se passer. Son ressentiment envers le créateur de Jimmy Gold grandissait. Que Rothstein ait osé démolir Jimmy comme ça, qu'il lui ait même pas accordé le droit de partir auréolé de gloire, mais qu'il l'ait laissé vivre, se compromettre, magouiller, et croire que coucher avec la poufiasse de vendeuse d'Amway du bout de la rue faisait de lui un rebelle. Maurice pensa lui écrire une lettre pour demander, non, exiger, des explications. Mais il savait d'après l'article du Time que ce fils de pute ne lisait même pas le courrier de ses fans. Alors y répondre. Comme le suggérerait Ricky le Hippie à Pete Saubers des années plus tard, la plupart des jeunes gens qui s'éprennent des œuvres d'un auteur en particulier, des Von Goethe, des Hesse, des Brötigan et des Tolkien, finissent par se trouver de nouvelles idoles. Vu son désenchantement vis-à-vis du coureur ralenti, c'est ce qui aurait pu arriver à Maurice, s'il n'y avait pas eu l'accrochage avec la salope déterminée à lui pourrir la vie depuis qu'elle ne pouvait plus planter ses griffes dans l'homme qui lui avait pourri la sienne. Anita Bellamy et son Pulitzer raté de justesse encadrée, son dôme laqué de cheveux teints en blond et son sourire en coin sarcastique. Pendant ses vacances de février 1973, elle avait lu les trois tomes de la trilogie Jimmy Gold en une journée. Et c'était ses exemplaires à lui, ses exemplaires privés, qu'elle était allée chercher sur l'étagère de sa chambre. Quand il était rentré, les livres jonchaient la table basse. Le coureur voit de l'action, s'imbibant d'un cercle de condensation laissé par son verre de vin. Ce fut l'une des rares fois dans sa vie d'adolescent où Maurice resta sans voix. Ce ne fut pas le cas d'Anita. « Tu parles de ces bouquins depuis bien un an maintenant. Alors je me suis enfin décidé à voir pourquoi il t'emballait autant. » Elle sirota son vin. et puisque je suis en vacances, je les ai lus. Je pensais que ça me prendrait plus d'une journée, mais honnêtement, il n'y a pas vraiment de contenu là-dedans, si ? T'es... Il s'étrangla un instant, puis... T'es rentré dans ma chambre ! Ça ne te pose pas de problème quand je rentre pour changer tes draps ou pour ranger tes habits bien propres et bien pliés ? Tu croyais peut-être que c'était la fée de la lessive qui s'occupait de toutes ces menus corvées ? C'est mes livres ! Ils étaient rangés sur mon étagère spéciale. T'avais pas le droit de les prendre. Je serais ravi de les remettre à leur place. Mais ne t'inquiète pas, je n'ai pas touché au magazine sous le lit. Je sais que les garçons ont besoin de... divertissement.
Il s'avança sur des jambes aussi raides que des échasses et récupéra les livres avec des mains comme des crochets. La quatrième de couverture du coureur Voix de l'Action était trempée à cause de son foutu verre, et il pensa, si un volume de la trilogie devait être mouillé, pourquoi c'est pas tombé sur le coureur ralenti ?
Je reconnais que ce sont des objets intéressants.
Elle s'était mise à parler de sa voix de conférencière éclairée.
Disons qu'ils montrent tout au plus la maturation d'un écrivain légèrement talentueux. Les deux premiers sont terriblement simplistes, bien sûr, comme peut l'être Tom Sawyer comparé à Huckleberry Finn, mais le dernier, quoique en rien comparable à Huck Finn, montre une certaine maturité, je te l'accorde.
« Le dernier est nul !» hurla Maurice.
« Tu n'as pas besoin de hausser le ton, Maurice. De hurler comme ça. Tu peux défendre ton point de vue sans t'énerver. »
Et voilà le sourire qu'il détestait tant, si mince et si tranchant.
« Nous pouvons discuter tranquillement. »
« Mais je veux pas discuter, merde !»«
Et pourtant, on devrait !»
s'exclama Anita en souriant.
« Étant donné que j'ai passé ma journée, je ne dirais pas perdu ma journée, à essayer de comprendre mon intellectuel de fils égocentrique et plutôt prétentieux qui collectionne par ailleurs les C en cours. »
Elle attendit qu'il réponde. Il n'allait pas lui donner ce plaisir. Tout était piégé avec elle. Elle pouvait l'aplatir comme elle voulait. Et à cet instant, c'était ça qu'elle voulait.
J'ai remarqué que les deux premiers tomes étaient bien abîmés, presque en lambeaux, usés jusqu'à la corde. Ils foisonnent de surlignages et de notes, dont certaines témoignent du bourgeonnement, je ne dirais pas floraison, on ne peut pas vraiment employer ce terme, n'est-ce pas, du moins pas encore, d'un esprit critique perspicace. Mais le troisième a l'air presque neuf, et il n'est pas du tout annoté. Tu n'aimes pas ce qui lui est arrivé, n'est-ce pas ? Tu n'aimes plus ton Jimmy une fois qu'il a, et par transfert logique, l'auteur, grandi.
C'est un vendu !
Maurice serrait les poings. Il avait le visage en feu et palpitant, comme après la raclée que lui avait foutue Womack devant tout le monde ce jour-là à la cafette. Mais Maurice lui en avait balancé une belle, et il avait envie d'en balancer une aujourd'hui. Il en avait besoin.
C'est Rothstein qui l'a vendu ! Si t'arrives pas à voir ça, t'es complètement débile.
Non,
dit-elle. Son sourire avait disparu. Elle se pencha en avant, posa son verre sur la table basse, sans quitter une seconde Maurice des yeux.
C'est là que tu te trompes. Un bon romancier ne guide pas ses personnages. Il les suit. Un bon romancier ne crée pas les événements de son histoire. Il les regarde se dérouler et ensuite il les écrit. Un bon romancier finit par réaliser qu'il est secrétaire et non pas Dieu. C'est pas le personnage de Jimmy. Ce connard de Rothstein l'a changé. Il en a fait un bouffon. Il en a fait un monsieur tout le monde.
Maurice détestait la faiblesse de son argument. Et il détestait le fait que sa mère l'ait poussé à défendre une position qui n'avait pas besoin d'être défendue, qui s'imposait comme une évidence à n'importe quel crétin doté d'un demi-cerveau et d'un minimum de sentiments.
« Maurice,
voix toute douce,
il fut un temps où j'aurais voulu être la version féminine de Jimmy Gold, tout comme tu aimerais être Jimmy aujourd'hui. Jimmy Gold ou quelqu'un comme lui. C'est l'île déserte, où la plupart des adolescents vont s'exiler en attendant de devenir des adultes. Ce qu'il faut que tu comprennes, ce que Rothstein a fini par comprendre au bout de trois livres, c'est qu'on devient presque tous comme tout le monde. « Je le suis devenu. »
Elle regarda autour d'elle.
« Sinon, pourquoi on vivrait ici, dans Sycamore Street ? »
parce que t'as été conne et que t'as laissé mon père nous plumer. »
Elle grimaça. Touché. Joli coup, exulta Maurice. Mais aussitôt, le sourire en coin retroussa de nouveau ses lèvres, comme un bout de papier se consumant dans un cendrier.
« Il y a de la vérité dans ce que tu dis, je l'admets, même si c'est cruel de ta part de rejeter ça sur moi. Mais t'es-tu seulement demandé pourquoi il nous a plumés ?»
Maurice resta silencieux.
« Parce qu'il refusait de grandir. Ton père est un Peter Pan bedonnant qui s'est trouvé une fille de la moitié de son âge pour jouer les fées clochettes au lit.
« Remets mes livres où tu les as trouvés ou balance-les, » dit Maurice d'une voix qu'il reconnut à peine. Une voix qui, pour son plus grand effroi, ressemblait à celle de son père.
« Je m'en fous. Je me casse d'ici et je reviens pas. »
« Bien sûr que tu vas revenir, »
répondit-elle. Et elle avait raison. Sauf qu'il mit presque un an à revenir, et qu'à ce moment-là, elle ne le connaissait plus, en admettant qu'elle l'ait connu un jour.
« Et tu devrais relire ce troisième roman encore une ou deux fois, je crois. »
Elle dut élever la voix pour dire le reste, parce qu'il était en train de se précipiter vers l'entrée, en proie à des émotions si fortes qu'elle l'aveuglait.
« Et un peu de compassion. Rothstein en a eu, lui. » Et c'est ce qui sauve ce dernier tome. »
Le claquement de la porte la coupa net. Maurice marcha jusqu'au trottoir tête baissée, puis il se mit à courir. Il y avait une rue commerçante avec un magasin d'alcool à 3 blocs de chez lui. Arrivé là-bas, il s'assit sur le râtelier à vélo devant Hobby Terrifique et attendit. Les 2 premiers gars qu'il interpella refusèrent d'accéder à sa demande. Le second, avec un sourire, sur lequel Maurice aurait bien balancé son poing. Mais le 3e portait des fringues de friperie et tanguait dangereusement sur bâbord. Il accepta d'acheter à Maurice une bouteille de 50 centilitres pour 2 dollars ou d'un litre pour 5 dollars. Maurice opta pour le litre, puis alla s'installer pour le boire au bord du ruisseau qui traversait la friche entre Sycamore et Birch Street. Le soleil commençait déjà à se coucher. Il n'avait aucun souvenir d'avoir fait le trajet jusqu'à Sugar Heights dans la voiture volée, mais arrivé là-bas, il avait décroché la méga timbale, comme aurait dit Larsen Lobsen. Aucun doute là-dessus.
De qui est-ce la faute, Maurice ?
Il supposait qu'on pouvait attribuer une petite partie de la faute au pochetron qui avait acheté 1 litre de whisky à un enfant mineur. Mais c'était surtout la faute de sa mère, et au moins une bonne chose en était sortie. Quand le juge avait prononcé sa peine, il n'y avait plus aucune trace de ce sourire en coin sarcastique. Il avait enfin réussi à l'effacer de son visage.